Les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Bangui. Bienvenue à notre journal. République centrafricaine, la France a dénoncé dans un communiqué lundi l'instrumentalisation dont elle fait l'objet, dit-elle, en Centrafrique. Alors que des groupes armés du quartier musulman de Bangui, théâtre de violence depuis début avril, se sont réclamés du soutien de Paris. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Tout est parti d'une distribution de tracts dans le quartier musulman de Bangui, le PK5, où une milice armée indique avoir le soutien de la France. L'ambassade de France a aussitôt dénoncé ce qu'elle considère comme des tentatives d'instrumentalisation. Autrement dit, la France se refuse à être présentée comme un soutien de groupes armés. La mise au point intervient après les violences meurtrières qui ont secoué Bangui après le début, le 8 avril, d'une opération militaire des casques bleus et des forces armées centrafricaines contre les groupes armés du quartier PK5. Les combats qui ont opposé les militaires aux milices ont fait au moins 25 morts, dont un casque bleu et une centaine de blessés. Depuis, des drapeaux français ont été hissés dans le quartier PK5, en plus des tracts distribués. La présence de drapeaux français relève d'une grossière manipulation visant à faire croire à une divergence entre les objectifs de la France et ceux des autorités centrafricaines et de la MINUSCA, dit le communiqué de l'ambassade de France, qui estime que ces drapeaux contribuent à entretenir un climat de confusion sur le rôle de la France en Centrafrique.
Au Tchad, les députés de l'opposition refusent de prendre part aux travaux de l'Assemblée nationale sur la nouvelle constitution. Ils dénoncent son adoption par voie parlementaire plutôt que par voie référendaire. Eric Manirakiza a joint N'Djamena, l'opposant historique et président du parti Fédération et Action pour la République, le député Ngaoleji Yorongar.
Seul le peuple peut trancher cette affaire-là, parce que pour nous, l'opposition, c'est une république bananière. C'est même une république des hypnos. Donc, on ne peut pas accepter que le gouvernement tord le cou à la dite constitution. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à ce que la question soit soumise au référendum. Et nous sommes sûrs de prendre le dessus au cas où Déby s'hasarderait à organiser le référendum. C'est la raison aussi pour laquelle il veut forcer la main à l'Assemblée nationale d'adopter cette constitution.
Et que prévoit la loi en matière de modification de la Constitution ?
La loi dit que la Constitution ne peut être modifiée que par le référendum. Elle a été adoptée par référendum, elle ne peut être modifiée que par référendum. Il est hors de question de la modifier par l'Assemblée nationale.
Et que comptez-vous faire ?
Nous ne sommes pas dupes. Dédié, habitué au forcing, nous en sommes conscients. Nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale. Nous en appelons aux partenaires économiques, financiers, politiques et stratégiques pour faire pression sur Idriss Déby afin qu'il cède au moins une fois.
Et s'il ne cède pas ?
S'il ne cède pas, nous aviserons.
Monsieur Yorongar, qu'est-ce que vous contestez dans ce projet de la nouvelle constitution ?
Tout. Parce que Déby a supprimé la primature pour régler ses comptes avec son premier ministre actuel qui refuse de démissionner. La constitution tchadienne dit tant que le premier ministre ne donne pas sa démission, le président de la République ne peut pas l'obliger à le faire. Monsieur Païmi résiste et il faut lui régler le compte par ce machin qu'on appelle le forum inclusif. On modifie aussi le nombre de mandats de députés. Déby a pris la décision de limiter les mandats de députés à 2 mandats, juste pour régler mon compte à moi qui vous parle. Parce que depuis 96, je me fais réélire plusieurs fois avec un score écrasant de plus de 80%. Troisièmement, il taille à sa mesure les régions. Alors, tout ça là, c'est pas de notre goût.
Le député Ngaoleji Yorongar, président du parti Fédération et Action pour la République du Tchad.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Sénégal, l'élu d'opposition Barthélémy Diaz, proche du maire de Dakar, Khalifa Sall, récemment condamné le 30 mars à 5 ans de réclusion pour escroquerie, a écopé ce mardi d'une peine de 6 mois de prison ferme pour outrage à magistrat. Monsieur Diaz, maire d'une commune de l'agglomération dakaroise, Mossa Sacré-Cœur, dissident de la majorité présidentielle et ancien député socialiste, était jugé par le tribunal de flagrant délit de la capitale sénégalaise, qui l'a en outre condamné à payer une amende de 100 000 francs CFA, environ 150 dollars. Le parquet avait requis lors du procès, le 8 avril, 2 ans de prison contre M. Dias, qui avait plaidé non coupable des accusations notamment d'outrage à magistrat, de discrédit sur l'ordre judiciaire et une décision de justice, et d'avoir provoqué un attroupement non armé. Partisan fervent de Khalifa Sall, Barthélémy Dias s'en était vivement pris au juge après la condamnation du maire de Dakar le 30 mars à 5 ans de prison et plus de 7 600 € d'amende pour escroquerie sur les deniers publics et fonds en écriture pour un montant d'environ 2 millions et demi d'euros. La Guinée-Bissau a un nouveau premier ministre de consensus depuis lundi, Aristides Gomes. La mission principale du chef du gouvernement investi hier, conduire le pays jusqu'aux législatives de novembre et mettre fin à une crise politique qui sévit depuis plus de 2 ans. Le point avec Jacques Aristide.
Quelques heures après avoir été nommé par le président bissau-guinéen José Mario Vaz, Gomes a prêté serment au palais présidentiel. À 63 ans, il succède à Augusto Antonio Arthur da Silva, nommé fin janvier, qui, comme ses prédécesseurs depuis la mi-2015, n'avait pas réussi à former de gouvernement, faute d'avoir obtenu le soutien des partis signataires d'un accord de sortie de crise d'octobre 2016. À la grande inquiétude de l'ONU, la Guinée-Bissau traverse des turbulences depuis la destitution en août 2015, par le président Vaz, de son premier ministre Domingos Simoes Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Les deux hommes, membres du même parti, ne s'entendaient plus sur la direction du pays, notamment au sujet de la corruption. Pereira était présent à la cérémonie d'investiture. Pour le nouveau chef du gouvernement, la réussite de sa mission dépendra en premier lieu de la volonté et de la collaboration du président et de toute la classe politique.
Au Kenya, 3 membres de la commission électorale kenyane ont démissionné lundi, accentuant encore plus le chaos qui règne au sein de cette commission depuis les ratés de la présidentielle de l'année dernière. Plus de précisions avec Lionel Gaïma.
Avec ses départs, la commission ne compte plus que 2 membres et son président. La semaine dernière, son directeur général a été placé en congé administratif en attendant un audit sur les questions de passation de marché. Selon la vice-présidente Consolata Nkatamaina et la commissaire Margaret Mwachanya, les événements liés à la suspension du directeur général ont gravement entamé le peu de confiance publique dont jouissait encore la commission. Le président de la commission électorale, Wafula Chebukati, assure néanmoins que l'institution fonctionne malgré le départ de plusieurs de ses membres. Pour sa part, le leader de la majorité au Sénat, Kipchumba Murkomen, a dit que Chebukati et les autres commissaires restants devraient démissionner dans la semaine. Sinon, une enquête judiciaire sera ouverte contre eux, a-t-il averti. Les élections repoussées de l'année passée ont fait ressurgir des peurs d'un retour de la violence politique au Kenya. Les affrontements en rapport avec les élections de 2007 avaient fait quelques 1200 morts.
Actualité hors d'Afrique maintenant, conflit en Syrie, les experts de l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques, OIAC, n'ont toujours pas pu entrer dans la ville de Douma, proche de la capitale Damas, pour y enquêter sur l'attaque au gaz présumée du 7 avril. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le directeur de l'OIAC, Ahmed Oumzoukou, a annoncé que la mission de l'organisation n'a pas encore été déployée à Douma. La Syrie et la Russie invoquent des problèmes de sécurité. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a nié toute mauvaise volonté de la part de Moscou. Les autorités russes ont rappelé qu'elles étaient, dès le début, pour une enquête impartiale. L'ambassade de Russie auprès de l'OIAC a assuré que l'arrivée des experts à Douma était prévue pour demain mercredi. La tension internationale ne faiblit pas après les frappes de représailles menées samedi par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni contre des sites du régime de Bachar al-Assad. Ces frappes font suite à l'attaque chimique présumée du 7 avril dans la ville alors rebelle de Douma. Elles sont intervenues malgré la présence en Syrie des enquêteurs de l'OIAC qui ont débuté dimanche leur mission. Les derniers combattants rebelles de Douma ont quitté samedi la ville après un accord de reddition signé le 9 avril, soit 2 jours après l'attaque chimique présumée. Le régime syrien nie que des armes chimiques ont été employées dans le drame de Douma qui a fait au moins 40 morts et des centaines de blessés selon les secouristes.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr VOA Afrique. www.voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.